Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Notre invité dans les studios de Radio SBS, Clément Balou, auteur de bandes dessinées, illustrateur et storyteller. Bonjour et bienvenue à nouveau en Australie.
Bonjour Jean et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis vraiment ravi d'être ici en Australie, à Melbourne et dans les studios de SBS pour le programme français.
Et là, vous êtes en Australie pour une deuxième visite et cette fois-ci, c'est pour promouvoir votre dernier ouvrage, Vietnamese Memories Down Under. Et vous allez aussi donner deux conférences, une à l'Université de Melbourne ce soir et l'autre à Monash University. Parlons peut-être de ces deux conférences que vous allez donner à ces universités.
Eh bien, tout d'abord, il y a une histoire avec ces universités, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, quand je suis venu pour la première fois en Australie, j'avais été invité par l'Université de Melbourne et également ANU à Canberra. Et c'est ce voyage qui m'avait permis de faire des recherches sur la communauté vietnamienne en Australie. Et aujourd'hui, je suis de retour avec le livre, la bande dessinée, le roman graphique, on peut l'appeler aussi comme ça, qui est le résultat de ces recherches effectuées il y a 6 ans. Donc, il était normal que je retourne dans les universités pour présenter ce travail que finalement j'ai pu initier grâce à elle. Alors, à Melbourne Université, c'est donc ce soir à 18h. Il y aura une présentation de mon travail et notamment une petite introduction par Madame la Consulte Générale de France, Madame Ignacio. Et par la suite, je présenterai mon travail, donc j'expliquerai un petit peu quel est mon processus de travail. Et puis surtout, je ferai une présentation, une petite lecture d'un extrait du nouvel album Down Under, qui est la raison de ma venue aujourd'hui en Australie. Et pour l'université de Monash, il y aura également donc une présentation. Alors les deux seront en anglais. Je ferai de mon mieux, il faudra être indulgent. Et pour Monash, c'est organisé donc par une autre universitaire, Madame Charlotte Mackay. Et c'est aussi une présentation de ce travail, mais si vous venez aux deux présentations, déjà j'en serais ravi, mais je présenterai les choses un peu sous un angle différent, car mon travail est composite. Il y a plusieurs données à prendre en compte dans c'est une expérience aussi, hein, pour moi, hein, d'aller à la rencontre des gens dans un autre pays et puis ensuite de raconter cette histoire à travers les dessins et les textes. Donc je mets en jeu plusieurs choses. Parfois c'est les paysages, parfois c'est le thème de la nourriture, parfois ça va être les couleurs. Donc je vais essayer d'explorer lors de ces deux conférences différents aspects de mon travail. Donc j'espère que ces deux conférences seront intéressantes pour tout le monde, même si on vient aux deux ou si on ne vient qu'à une des conférences.
Parlons de Vietnamese Memories Down Under. Que pouvez-vous dire aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être pour les encourager à aller lire cette œuvre?
Eh bien, ça ne vous a pas échappé si vous êtes habitant à Melbourne ou à Sydney ou d'autres grandes villes, ou que vous passez de temps en temps dans ces grandes villes australiennes. Il y a beaucoup de Vietnamiens. Et on pourrait partir d'une question très simple, mais que font-ils là? Pourquoi sont-ils là? Comment sont-ils arrivés là? Et derrière les anecdotes de chacun et de chacune se dresse en fait un portrait d'une diaspora qui a connu des épisodes extrêmement douloureux, qui sont reliés finalement, ça commence avec la colonie en Indochine, la colonie française en Indochine. Puis il y a une succession d'événements, différentes guerres, un changement de régime, qui font que les gens ont dû partir pour leur survie, pour leur bien-être, et se sont retrouvés à devoir choisir un pays d'exil. Enfin, quand je dis choisir, y avait-il vraiment le choix? Pas dans tous les cas, en tout cas. Et il se trouve que la communauté vietnamienne en Australie est une des plus grosses au monde. Alors, il y a bien sûr les États-Unis où on est à 1,5 million personnes, la France, due encore une fois au passé colonial. Mais l'Australie figure en bonne place. Donc, dans ma BD, j'explore un petit peu les raisons. Alors c'est lié à des contextes économiques, à des grands mouvements de l'histoire, mais aussi parfois à la volonté d'une personne. Donc voilà, je vous laisse découvrir dans le livre. Parfois une personne fait la différence. Et donc voilà, j'essaye de dresser un portrait. Alors il est subjectif ce portrait des Vietnamiens que vous croisez dans les grandes villes australiennes, chez qui peut-être vous allez manger de temps en temps un bon pho dans un restaurant. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est l'occasion de voir ce qu'il y a derrière. Et puis pour ceux qui la connaissent un petit peu, c'est l'occasion d'avoir peut-être mon point de vue et puis des approches différentes, puisque c'est une série de portraits. C'est pas l'histoire d'une. Il n'y a pas un héros. Il y a plusieurs protagonistes dans l'album. Donc on va aller parfois avec une personne âgée qui nous raconte des épisodes de sa jeunesse. Et puis après on va être avec ce qu'on appelle les gens de la seconde génération, donc des gens de mon âge ou même plus jeunes, qui ont grandi en Australie et puis qui donnent leur point de vue. Donc il y a une collection comme ça de portraits. Donc même si on connaît la communauté vietnamienne, peut-être que ça pourra apporter un peu de richesse dans l'approche.
Et vous-même, vous avez des origines vietnamiennes. Votre papa, je crois, est vietnamien et votre maman française. Quel a été leur parcours? Est-ce qu'ils ont quitté le Vietnam après 1975? Quelle est leur histoire?
Alors, une maman du nord de la France et un papa du sud du Vietnam. Voilà. Donc, ça explique aussi mon intérêt dévorant pour cette histoire, cette culture. Et mon père est parti du Vietnam à la fin des années 60. Et pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, c'est le moment de l'intensification de la guerre américaine. Alors certains l'appellent la guerre américaine, d'autres vont appeler ça la guerre civile. Mais enfin, toujours est-il que dans les années 60, il y a des opérations comme Rolling Thunder, qui sont des bombardements massifs qu'on a vu dans les films hollywoodiens d'ailleurs. Donc, c'est une période très très dure et la guerre est propagée un petit peu partout sur le territoire. La famille de mon père n'est pas à l'abri. Et donc les frères et sœurs, donc mes oncles et tantes, mon père et oncles et tantes, à ce moment-là commencent à partir du Vietnam en ordre éparpillé. Ce qui fait que, comme beaucoup de familles vietnamiennes de la diaspora que j'ai pu rencontrer, ben on a des membres de la famille qui sont en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, voilà, à travers la France aussi. Et ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, c'est que quand mon père part, il pense que c'est temporaire. C'est un temps pour venir en France se mettre à l'abri, et une fois que ça se calmera, il pourra revenir. Et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre un peu de la dramaturgie, je dirais, quand j'ai décidé de le raconter en bande dessinée, c'est que en fait ce temps il s'est étendu, et puis finalement il a fait sa vie en France, il a rencontré ma mère. Ils ont eu des enfants, ma sœur et moi. Et donc, il n'y a plus de retour possible. Donc, l'exil est devenu définitif. Et après, je me suis demandé si dans les autres familles, quelles étaient les autres configurations. Donc, j'ai commencé à essayer d'explorer tout ça en demandant à des gens de bien vouloir me raconter leur histoire. Alors, certains ont accepté, certains n'ont pas accepté. Et puis, parmi ceux qui ont accepté, il y a des histoires qui m'ont touché plus que d'autres et qui figurent dans les albums de bande dessinée. Donc, il y a 5 tomes aujourd'hui quand même. Donc, il y en a 3 qui sont disponibles en anglais. Living Saigon et Little Saigon et donc Down Under. Et puis en France, il y a 5 volumes au total, sous le nom de la série Mémoire de Viet Cu. Viet Cu étant un terme un petit peu polémique que j'ai choisi à escient.
Alors, qui est ce personnage que vous avez créé, Viet Cu?
Alors, Viet Cu, tout simplement, c'est le Vietnamien de l'outre-mer, le Vietnamien en exil. Et en fait, c'est à la fois un peu injurieux, je vous le cache pas, dans la bouche de certains. Et puis, c'est aussi un étendard sous lequel d'autres vont se retrouver, vont dire « oui, on est les Viet Cu, on est ceux de l'outre-mer, on est ceux qui ne vivent pas, qui ont la culture vietnamienne, mais qui ne vivons pas au Vietnam. Donc l'idée, c'est que encore une fois, il y a plein de protagonistes différents, il y a plein de personnes qui deviennent des personnages de BD qui vont parler à travers les voilà quand on tourne les pages. Mais c'est d'avoir quand même une sorte de tous ces destins individuels, si vous voulez, se réunissent, ont des points communs. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un portrait global, commun, encore une fois subjectif, c'est une vision d'artiste, hein, je ne prétends pas être journaliste. Et donc ça forme comme ça une espèce d'identité commune, contradictoire parfois. Voilà, mais c'est surtout une série de portraits.
Quelles sont un petit peu vos inspirations pour créer ces œuvres ?
Alors l'inspiration, elle est complexe. Elle vient de différentes choses. La première chose, c'était vraiment de vouloir connaître l'histoire. En fait, les gens de la diaspora en général, hein, pas que vietnamienne, c'est un peu les perdants de l'histoire, de l'histoire officielle. Personne ne va écrire leur histoire officielle. Personne ne va, en tout cas spontanément, hein, dresser des statues, parce que c'est ceux qui ont dû fuir à un moment donné parce qu'ils étaient du mauvais côté, quoi. Donc dans l'histoire française, on le voit peu, hein, cet aspect-là. Dans l'histoire officielle au Vietnam, bon, bah c'est très caché, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est si on le prend pas en main, nous, les gens de la diaspora, personne va le faire pour nous, quoi. Donc alors je suis pas le seul, hein, heureusement, hein, il y a des gens très connus aux États-Unis, en France, en Australie, qui œuvrent à travers la littérature, le cinéma. Moi, c'est la bande dessinée. Et alors après, la bande dessinée, moi je suis un passionné de dessin, donc je ne fais pas non plus que cette série de BD, je fais aussi d'autres projets d'illustration et de bande dessinée. Et le Vietnam, sa culture et les pays où j'ai pu aller, donc bien sûr la France, les États-Unis et l'Australie, m'ont toujours offert, c'est aussi une presque, je sais pas si c'est un hasard, en tout cas c'est une chance, m'ont offert des choses à dessiner, des paysages, des lumières, des odeurs, des goûts. Alors c'est plus dur à dessiner, mais j'essaye quand même de retranscrire ça dans mes BD. Enfin, donc ce sont des sensations que j'ai eu la chance de percevoir et que j'essaye de transformer en images et en texte dans mes bandes dessinées. Donc voilà, c'est un peu tout ça réuni. Donc c'est, encore une fois, c'est un mix, c'est composite.
Et la ville où vous habitez en France, est-ce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens ? Est-ce qu'ils ont choisi plutôt la France que les États-Unis, que l'Australie ?
Alors j'habite à Marseille. S'il y a des Marseillais qui nous écoutent, je les salue chaleureusement. Sans vouloir être trop chauvin, je vous invite à regarder les résultats de l'OM en ce moment. C'est assez fabuleux.
Premier au classement.
Et donc à Marseille, il y a une communauté vietnamienne. Il y a deux pagodes vietnamiennes. Mais cette communauté vietnamienne, elle n'est pas récente. En fait, c'est moins des boat people parce que les boat people, ça commence en 1975. Ce sont des gens à Marseille qui sont arrivés avant, qui sont arrivés plutôt pendant, donc encore une fois, la guerre civile ou guerre américaine, ou qui sont même arrivés encore avant, au moment du départ de la France, la fin de la colonie d'Indochine, donc dans les années 50. Donc c'est une population qui est installée depuis un petit moment à Marseille. Donc ce qui est marrant, c'est que les Marseillais qu'on croise dans la ville, souvent ils ont un fort accent marseillais. Bon, moi je l'ai pas, mais voilà, il y a pas mal de gens qui ont l'accent marseillais, donc c'est assez folklorique. Et dans le quartier où je suis, c'est un ancien quartier, c'est un quartier où anciennement il y avait pas mal de Vietnamiens. Donc ils ont diffusé les enfants, la seconde génération, la troisième génération. Ils ont un peu diffusé dans la société, donc il y a moins de quartiers, il n'y a pas un Little Saigon à Marseille, mais là où je suis, au 5 Avenue, il reste des traces, parce qu'il reste des restaurants en fait, qui sont là depuis longtemps, qui sont repris par les enfants. Donc il y a ces traces là qu'on voit, qu'on devine, notamment grâce au restaurant, et encore une fois les deux pagodes, et puis après les Marseillais vont être un peu disséminés à travers la ville, et c'est généralement ce que j'ai pu constater, à part à Paris dans le 13e arrondissement. La plupart du temps dans les autres villes de France, les gens de la diaspora vietnamienne sont pas forcément réunis dans le même quartier. Bon, encore une fois, avec l'exception du 13e arrondissement à Paris, qu'on appelle Chinatown, mais qui en fait, où il y a énormément de populations d'origine vietnamienne.
Et Marseille, c'est une ville multiculturelle comme Melbourne, où on peut retrouver le quartier vietnamien à Footscray, à Springvale ou à Parramatta à Sydney.
Alors Marseille est très multiculturel. C'est la porte d'échange, de contact avec la Méditerranée, avec le continent africain et le Moyen-Orient. Donc certaines mauvaises langues disent que Marseille n'est pas vraiment en France, mais est déjà en Afrique. c'est pas complètement faux, mais ça offre justement des décors assez savoureux, de la cuisine du monde qu'on peut trouver un peu partout au fur et à mesure des rues. Donc c'est une ville qui a une identité très spéciale, et puis il y a aussi faut pas oublier non plus les Italiens, hein, qui il y a une forte immigration italienne, donc elle est très imprégnée par l'Italie. Ça aussi je trouve que c'est un point fort, et puis voilà, c'est un port, donc ça bouge, c'est ouvert. Je me sens assez bien, je dois dire, à Melbourne. Je pense qu'il y a des points communs, j'ai l'impression qu'il y a souvent quelque chose comme ça dans les grandes capitales ou grandes villes du sud d'un pays qui sont ouvertes sur la mer. Il y a des similitudes. Après, Marseille est une ville difficile, je vous le cache pas, hein. C'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté, mais il y a aussi beaucoup de création. Il y a beaucoup, par exemple, un tissu associatif très fort, et donc là en ce moment je vois qu'il y a des initiatives menées par des gens plus jeunes que moi sur la culture asiatique à Marseille. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est vivant, c'est chez moi.
Et y a-t-il des anecdotes que vous aimeriez partager avec nous concernant la communauté vietnamienne ici en Australie, et qu'on retrouve dans votre livre Vietnamese Memories Down Under?
Bon, je serais tenté de dire aux gens de venir à la conférence pour les entendre et et de prendre le livre pour les lire. Mais bon, ok, je prends le jeu. Je vais vous raconter une des anecdotes. Bon, elle est légère, hein, parce qu'il y a des choses. Vous verrez dans le livre, il y a des choses très dures. Hein, l'épisode des Boat People, c'est très dur. Hein. Il faut se rappeler que quand les gens prenaient la mer pour fuir le Vietnam, en gros, une personne sur deux arrivait à destination. Donc le taux de mortalité, c'est absolument dramatique. Ensuite, il y a le fait de ne pas pouvoir trouver tout de suite un pays d'accueil. Ça se fait pas comme ça. Donc c'était organisé dans des camps de réfugiés qui étaient notamment supervisés par l'ONU. Et puis de là, les gens pouvaient attendre très longtemps, parfois des années, dans un camp de réfugiés. Alors souvent en Malaisie ou en Indonésie, c'était là où il y en avait le plus. Mais il y avait aussi Hong Kong, il y a aussi la Thaïlande. Avant d'être accueilli dans un pays, et là dans le pays, on arrive sans rien, on est très vulnérable, hein, en quelque sorte, on ne connaît pas la langue, on n'a pas de possession, on est pauvre, quoi, tout simplement. Donc il y a tout ça qui est raconté dans la BD. Alors plus en détail, mais c'est des épisodes très durs. Mais je vais vous raconter quelque chose de plus léger, d'accord?
Oui.
Donc un jeune homme, un adulte, hein, quand même, de la communauté vietnamienne, qui a bien voulu me raconter un peu son enfance. Et alors il dit, là c'est de mémoire, hein, il dit que quand il était gamin, ici dans au collège, au lycée en Australie, y a tous les petits camarades qui avaient des t-shirts taille, donc avec des espèces de motifs colorés, voilà. C'est moi j'ai connu la même chose à l'époque avec les t-shirts Waikiki, bref, et donc tout le monde veut cette marque de t-shirt. et avec donc des motifs colorés dessus. Et donc il demande à sa mère s'il peut avoir ce t-shirt là, mais c'est des t-shirts de marque, donc ça coûte cher. Et comme je vous le disais, on est fraîchement arrivé, enfin immigrant, on n'a pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Donc la maman, pour faire au mieux, elle prend un t-shirt blanc et puis elle le peint elle-même, d'accord. Et puis qu'est-ce qu'elle peint sur le t-shirt? Elle peint un arc-en-ciel. Voilà. Et donc après, lui se retrouve à devoir porter un t-shirt avec un arc-en-ciel, ce qui n'a rien à voir, ce qui n'a pas du tout la même signification que les t-shirts tie and die qui vont évoquer plutôt, voilà, un truc un peu festif, fun, de, je sais pas, un peu d'inspiration indienne. Et mais un t-shirt avec un arc-en-ciel, c'est complètement autre chose. Donc voilà, donc il est obligé d'aller avec son t-shirt arc-en-ciel à l'école, ce qui est un peu la honte et ce qui forge aussi le caractère, ce qui forge le caractère. Donc voilà, c'est un petit détail. C'est un petit décalage culturel, mais qui montre qui finalement en creux en dit pas mal. Et puis lui, il dit rien à sa mère, il se plaint pas à sa mère, il est brave malgré tout. Donc voilà, je trouve ça assez touchant d'imaginer cette personne qui va très bien aujourd'hui, qui a très bien réussi sa vie, voilà, comme un gamin qui est déçu mais qui serre les dents quand même pour ne pas faire de peine à sa mère, dont il sait qu'elle fait de son mieux.
Peut-on peut-être parler de vos projets d'avenir, Clément Balou, comme on dit en bon français, des work in progress, que vous aimeriez partager avec nous?
Alors, avec grand plaisir. Alors, il y a un projet qui arrive très vite là en France, qui a une dimension écologique, enfin une dimension de message écologique. Juste avant, j'aimerais préciser que l'écologie, la nature sont des choses qui me traversent, qui me tracassent quand on voit l'état voilà, du monde aujourd'hui. Bon, voilà, je déteste les gens qui donnent des leçons, donc je vais pas en donner, mais juste pour signaler que récemment j'ai fait un album qui s'appelle J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Donc c'est une bande dessinée tirée d'un livre d'Alexis Génie, qui est un écrivain français qui a eu le prix Goncourt en 2011 avec L'art français de la guerre. Et ce livre raconte la vie de John Muir, donc c'est une biographie. Donc Alexis Génie l'a fait sous forme littéraire et moi je l'ai fait sous forme de bande dessinée. Donc c'est la biographie de John Muir, qui est le premier écologiste américain. Et donc au milieu du 19e siècle, il a conscience que la véritable richesse aux États-Unis, c'est la nature, et il va tout faire, il va consacrer toute sa vie à partir du moment où il a cette révélation à préserver la nature. Et c'est le père, on l'appelle comme ça, le père des parcs naturels, donc de sanctuaires où on n'a pas le droit d'exploiter la nature, où la nature continue de prospérer. Donc j'avais fait cette bande dessinée et là aujourd'hui j'ai un nouveau projet qui a comme ça une teinte un peu soucieuse de l'écologie, mais assez différente. C'est le Marégraphe de Marseille, et on revient dans ma chère ville de Marseille. Le Marégraphe de Marseille, c'est un appareil et un lieu qui est au bord de la mer, sur la corniche, donc les pieds dans l'eau, ancré dans la roche, mais avec un tunnel qui va dans l'eau. Et le Marégraphe de Marseille mesure le niveau de la mer Méditerranée depuis 120 ans. Et en fait, ces mesures servent à dire si le niveau de la mer globalement monte ou s'il descend. Bon, alors la mauvaise nouvelle, c'est que l'eau monte. Et en fait, depuis 120 ans, ces données sont fournies à l'ensemble des scientifiques et actuellement aux membres du GIEC. Et ça permet, par exemple, aux membres du GIEC de documenter les rapports qu'ils font voilà, chaque année. Donc ça se passe à Marseille. Et il y a un petit comité scientifique qui m'aide, qui s'appelle les Amis du Marégraphe. Et donc on travaille sur cet album et il va être disponible dès Noël prochain. Alors en français, et puis après, début janvier 2026, on va en faire la promotion. Donc ça va s'appeler tout simplement le Marégraphe de Marseille, et ça nous explique ce qui se passe voilà, au niveau de la mer.
Clément Balou, est-ce que vous aimeriez peut-être lancer un message à celles et ceux qui vous ont accueillis en Australie pour faciliter ce voyage, ces conférences aux deux universités, Melbourne et Monash?
Absolument. Le travail d'auteur de BD est parfois très solitaire quand on est dans son atelier à faire les planches. C'est un long couloir de travail. Mais pour que les livres arrivent auprès du public, même pour que les livres parfois soient conçus. Je reçois de l'aide, une aide très précieuse de plein de gens. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissant et j'aimerais saluer tout particulièrement Tess Do de l'Université de Melbourne. J'aimerais aussi saluer Charlotte McKay de l'Université Monash. Et sur un plan plus d'action culturelle, j'aimerais saluer Sheila Nwakfam qui m'ont aidé. Alors il y a plein d'autres personnes qui m'ont aidé, j'espère que elles se reconnaîtront. À vous tous qui avez accepté de m'aider, qui m'avez tendu une main, encore une fois un très grand merci.
Clément Balou, merci à vous et bon séjour en Australie.
Merci beaucoup, merci aux auditeurs.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.